On va déguster. Sur France Inter.
J'ai visité l'île d'Elbe. Napoléon est naturellement présent partout à un point qu'on accueille avec satisfaction la facétieuse pancarte d'un bistrot qui affirme en italien « Ici, Napoléon n'est jamais venu ». Ceci fait, on suit pas à pas le grand capitaine et on va où il est allé, notamment là où il a habité. Sa maison, qui n'est pas un palais, mais une villa comme pouvaient en avoir les bourgeois de l'époque, domine le large vers la France, c'est-à-dire la Riviera du Ponant italienne. On se dit bêtement qu'on aurait bien accepté cet exil. L'île n'est pas d'une somptueuse beauté comme la Corse, mais la mer est toujours la mer et on la domine de haut, sur des grands fonds où elle est bleu marine. De l'autre côté, bruit tout doucement la petite ville de Portoferraio. Avant de monter chez Napoléon, on a parcouru ces places animées d'un monde de pêcheurs naïfs, hospitaliers et arrogants, comme devait l'être la population des échelles marines de l'Odyssée. On a vu de grands gaillards taillés en armoire à glace manger, en plein vent, du poulpe au vin. Cela se fait en choisissant d'abord une fourchette dans un bocal. On vous plante la fourchette dans une marmite où bouillotte le poulpe dans son noir. On vous la sort ayant piqué une sorte de grosse araignée qu'on s'engoule en rejetant la tête en arrière. Tout ça pour dire que la rue est bon enfant et qu'on sent tout de suite en son âme l'exquis laissé-aller des grandes paix. C'est un extrait d'un recueil de chroniques dont le titre est « Les terrasses de l'île d'Elbe ». Il est signé, François Régis, d'un écrivain que vous aimez beaucoup.
Et
beaucoup,
oui, que
beaucoup.
Je mets très haut dans mon panthéon personnel. C'est Jean Giono.
C'est Jean Giono. Et Giono nous rappelle que le destin de la plus grande île de l'archipel toscan est lié à Napoléon, qui a passé donc 300 jours entre 1814 et 1815, et qui a laissé une empreinte importante. Il a contribué notamment au développement agricole de l'île, en faisant assécher les marais, en améliorant le réseau routier, en développant une viticulture déjà bien implantée depuis les Étrusques. À son arrivée, considérant que la cuisine était un peu fruste, il l'aurait tout simplement fait contribuer à la faire adapter à son goût impérial. Il en reste un témoignage, un livre, « A tavola con l'imperatore », à table avec l'empereur. Ce sont des recettes recensées par une figure de la gastronomie italienne, grand connaisseur de l'île, qui s'appelle Alvaro Claudi. 70 recettes elbo-napoléoniennes, pourrait-on dire, un genre de cuisine fusion avant l'heure, inspirée du terroir local, mais complètement chamboulée, avec des choses du genre pigeon bardé d'ail en panure et frits, des fritelles de riz au safran. La personne qui m'a parlé de ce livre, dont j'ignorais l'existence, s'appelle Tala Iskandar. Elle aussi est une grande connaisseuse de cette île, où elle n'est pourtant pas née, car elle est née au Liban, puis a grandi en France, avec son mari Gabriele Muti. Ils ont un restaurant à Paris, dans le 9e arrondissement, rue La Bruyère,
Uncino,
où Gabriele rend hommage à la cuisine de l'île où il a grandi et où ses propres parents tenaient un restaurant, une institution locale, Il Baretto. Et elle est un peu partout cette île, même si elle ne dit pas vraiment son nom dans la cuisine de Gabriele, une cuisine essentiellement marine, du poulpe, lard de colonnata, réduction d'eau de poulpe à la cardamome noire, jus de courgette, jusqu'au spaghetti à l'araignée de mer, en passant par une herbe emblématique de l'île d'Elbe, la Nepitella, jumelle de votre Nepita Corse, la Nebida de François Régis et Élodie. L'île d'Elbe, ce micro-terroir dont Tala m'a si bien parlé, que Pline l'Ancien qualifiait d'île de vin et de fer. Fer comme Portoferraio, la principale ville de l'île. Fer comme les mines qui ont fait la richesse de l'île avant d'être abandonnées au profit du tourisme. La cuisine de l'île d'Elbe est donc une cuisine de mineurs et de pêcheurs. Tala et Gabriele se sont mariés là. Et c'est le même Alvaro Claudi qui a fait paraître le livre de recettes napoléoniennes, qui a préparé le dîner de leur mariage. On y a servi aux invités un vrai casse-croûte de mineur, la sburrita. Le pain de la veille, frotté à l'ail, de la morue cuite dans un bouillon, le pain arrosé avec ce bouillon, cette aquapazza, ce bouillon de pochage du poisson, agrémenté de cette nepitella au goût si distinctif, ce mélange un peu quoi, de, on dirait de menthe et de poivre.
Ouais, c'est entre la marjolaine, en même temps il y a des accents mentholés.
Exactement. Je ne sais pas si ce plat, la sburrita, a trouvé grâce au palais de Napoléon, mais on la goûterait bien, cette sburrita ancestrale, et on se sentirait sans doute venir, ce que Giono appelle si joliment, l'exquis laissé aller des grandes paix.
Ah bravo, quel beau voyage à l'île d'Elbe, ça donne carrément envie de tout lâcher et d'y aller, de s'y exiler, puisque c'est une île magnifique qui on voit souvent comme ça au large de la Corse et qui appartient en fait à la province toscane.